Donc moi, ce que je voulais vous présenter, mais ça va être surtout des exemples, hein, on ne va pas faire de théorie. Mon intervention va porter sur la participation des artistes, plus généralement des acteurs de l'esthétique, c'est-à-dire les artistes, mais les architectes, les paysagistes, au mouvement d'habitants. Et je vais essayer de dégager un petit peu quelques significations de cette participation. Voilà. Et on va passer directement. Alors les exemples que j'ai là, je vais vous les présenter, donc on va pas aller les sauter. Et on va passer au premier exemple. Alors voilà. Donc, premier exemple, bon, c'est comment on simule l'insertion d'une ligne à très haute tension dans un paysage rural du Lot. Il y a deux formats, deux manières d'utiliser la simulation 3D. La première, ben, vous voyez, c'est la modélité aérienne, c'est le vol d'oiseau. Hein. On adopte le point de vue de l'aménageur, on plane au-dessus de l'ouvrage, on plane au-dessus du local et on minimise l'impact du projet qui est écrasé par le surplomb. L'autre manière qui nous intéresse, c'est quand justement un paysagiste milite dans l'association de défense de l'environnement, il fait lui-même une propre simulation à hauteur d'homme. Autrement dit, ça correspond mieux au point de vue des riverains, c'est-à-dire qu'on approche beaucoup mieux l'impact du projet de ligne à très haute tension sur un paysage très ordinaire. Hein, ce n'est pas du tout le paysage splendide habituel. Voilà. Première. Ah, bah, décidément, il faut que je m'y mette. Voilà. Deuxième exemple, là on se retrouve en Hollande, un pays où on fabrique la nature sans complexe. Là, il s'agit de revitaliser un paysage mort. C'est un ancien marais qui a été stérilisé, asséché par l'agriculture industrielle et l'exploitation de la tourbe. La pièce maîtresse du projet, c'est recréer un ruisseau qui s'est asséché comme le marais initial. Alors le paysagiste en charge du projet, Jeroen van Westen, va utiliser les récits des habitants pour confectionner son ruisseau. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va collecter les histoires vécues, les souvenirs qui témoignent de l'attachement des riverains au paysage, de la valeur qu'ils attachent aux composantes de ce paysage. Bon, grosso modo, si le riverain vous raconte un bon souvenir, une partie de pêche, un repas champêtre, le tracé du ruisseau va être attiré par sa propriété. Donc on s'inspire du modèle de Kandinsky hein, qui est écrit là-dessus. En revanche, si vous racontez des histoires de moustiques, des mauvaises odeurs, etc., le tracé du ruisseau va s'éloigner de son tracé, de sa propriété. Bon, tout ça pour dire que finalement, on a créé un lien entre le rapport qu'établissaient les riverains avec cet ancien ruisseau, et on a les histoires ont représenté ce lien, et à partir de ce lien, ben on délimite le nouveau tracé. Alors vous voyez, il y a des infléchissements, etc. Ça correspond à une histoire neutre, une histoire très positive, une histoire négative, etc. Alors, autre exemple. Alors là, on est dans le Saint-Laurent, là. On est au Canada. Les riverains de la côte nord du Saint-Laurent sont les victimes du changement climatique. Il y a une érosion qui est aggravée. Hein. L'érosion des berges du fleuve est aggravée. Elle menace les habitations. Et au Canada, c'est de l'aménagement frontal. Quand on est à 5 mètres de l'habitation, on évacue la personne et c'est assez douloureux. Donc, il y a des artistes québécois qui ont accepté de réaliser cette peinture avec les habitants. Hein. Je ne vous parle pas de la valeur esthétique du tableau. Ce n'est pas le problème. Il est très figuratif. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de populariser le combat des habitants, et également de traduire leur émotion. Finalement, on peut dire que les artistes contribuent à apaiser l'expérience douloureuse et l'émotion des riverains. Il y a trois modalités à ça. La première, on peut considérer qu'il y a une mise en commun, c'est-à-dire que l'émotion est socialisée. La deuxième, c'est qu'il y a une mise à distance objectivante. Ben oui, finalement, dans la forme de la peinture, hein, qu'est-ce qu'on a ? On a les grandes vagues. Il n'y a pas de grandes vagues hein, dans le Saint-Laurent, mais les grandes vagues, elles traduisent l'inquiétude des riverains. C'est mis à distance, hein, c'est mis en forme, cette inquiétude. Et puis l'autre, c'est une forme de reconnaissance, Axel Honnès et tout ça. Donc autrement dit, on a finalement une espèce d'apaisement de la douleur. Ça rend peut-être les riverains beaucoup plus disponibles pour participer à des débats publics, pour défendre leur point de vue. Au lieu d'être tout rouge, d'être énervé, de bafouiller, ben, ils vont pouvoir apaiser leur douleur, passer devant et s'exprimer beaucoup plus clairement. Ensuite, alors, bon, je vais peut-être pas avoir le temps de vous parler des Barcelonais, donc on va peut-être passer les Barcelonais. Si j'ai le temps, je vous les passerai après. On va passer ensuite à Montréal. Donc, si j'ai le temps, je reviendrai sur les Barcelonais, mais je ne crois pas que j'aurai le temps. Je vais vous parler de l'expérimentation d'un collectif d'artistes montréalais qui s'appelle Dardar, qui a été étudié par une historienne d'art, Suzanne Paquet, et qui révèle le rôle des artistes dans les transformations de l'espace public, en particulier la place publique urbaine. Les artistes vont produire des nouvelles formes, ils vont produire des nouvelles situations, des nouvelles relations entre les habitants. Point de départ, on a le Square Vigier. Le Square Vigier s'est bâti autour d'une œuvre d'art, l'Agora, c'est ce que vous avez en face des yeux. C'est une sculpture place publique. Alors Charles Daudelin a fait ça dans les années 70, ou dans les années 80, je ne sais plus exactement. Et ça a été conçu comme un équipement à l'usage des citoyens. Alors, oui, on a abrité de la pluie, on a abrité du soleil, on est... Donc il avait le projet d'en faire finalement un lieu pour les usagers. Hein. Alors il a bien trouvé des usagers... L'agora a bien été appropriée, mais elle n'a pas été appropriée par les usagers prévus. Les usagers qui les ont appropriés, c'est les SDF. C'est donc des personnes itinérantes du centre-ville qui en ont fait un lieu d'habitation. Du coup, la place s'est marginalisée et sa destruction a été programmée lorsque un collectif d'artistes, Dardar, s'y installe pour expérimenter directement dans l'espace public. Alors, je vous donne un exemple de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont fait. Alors, c'est quelque chose de... Finalement, c'est une action qui est très économique, hein, qui est très économe. Finalement, qu'est-ce qu'elle nous... Elle revivifie l'espace public grâce à différentes modalités. La première chose, ça révèle une autre figure de la ville. Une autre figure dans la ville. Grâce à cette performance artistique, on voit ce qu'on ne voyait pas, ou ce qu'on ne voyait plus, ou ce qu'on ne voyait pas beaucoup. C'est la présence des SDF qui s'est endormie au cœur de la ville. Mais surtout, ces corps qui étaient soit muets, soit bredouillants, soit ils accèdent à un certain langage. Hein, il y a un panneau. Et en plus, ce corps des SDF n'est plus voué au parasitisme, il n'est plus voué à la mendicité. Il se prête aux rêves, voire aux beaux rêves. Le SDF gagne un corps très différent. Hein, il devient un beau rêveur. Ça suscite... Alors, pas simplement cette action-là, mais beaucoup d'autres actions. Hein. Ça va susciter de nouvelles relations entre les habitants du quartier. Hein. C'est-à-dire que les SDF vont être valorisés par l'action des artistes, ils vont collaborer avec eux. La restitution de leur expérience vécue va contribuer à relativement les réintégrer dans une communauté de quartier. L'expérience va attirer des curieux, des amateurs d'art. Donc il y a une certaine vie de quartier qui se met en place. Il y a une certaine revivification de l'espace public en question. Du coup, est-ce que j'ai le temps de présenter Barcelone, peut-être ?
Très vite.
Très vite, hein, très vite, voilà. Alors, Barcelone, ça c'est toutes des choses qu'on a fait avec Nathalie, qui connaît bien. Là, Barcelone, on y est allé ensemble. Alors, Barcelone, quoi en dire rapidement, hein ? On va se... Il faut que je retrouve mon... Voilà. L'exemple du collectif Site Size, c'est un collectif d'artistes hein, qui va nous permettre d'évoquer l'alliance entre des associations de quartiers barcelonais. Alors, on dit là-bas des associations de voisins hein, et puis des nouveaux collectifs qui sont composés de jeunes radicaux et qui sont animés par des artistes, hein, des artistes très militants. Alors, vous voyez, ça, c'est une de leurs... là-dedans, il y a les artistes. On a du mal à distinguer les artistes des voisins, mais enfin, ils sont mêlés.
Hein?
Oh non, 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 c'est pas 80, non, non, c'est 2005, hein, 2005-2006.
Non, parce que ça a commencé déjà.
Oh oui, oh là là. Alors, là, c'est intéressant, je trouve que c'est un truc intéressant parce que ça illustre une figure de l'art politique, c'est l'immersion dans le mouvement, hein. L'artiste devient militant. Alors, ils deviennent militants, notamment, ils vont même... C'est le refus de toute coupure entre l'art et son public, hein, du coup, hein, on est là-dedans. Donc les artistes vont s'exposer, comme les voisins, au coup des policiers. Ils vont subir les assauts des bulldozers. Finalement, l'artiste se fondrait en apparence, se fondrait dans le collectif. En fait, c'est plus compliqué que ça. On va se rendre compte que les artistes, à la différence des mouvements de voisins, ils ne sont pas enracinés dans le quartier. Eux, ils habitent dans l'urbain. Ils habitent dans cette espèce de grosse machinerie qui est devenue Barcelone. Hein, et ils considèrent finalement cette machinerie comme une sorte de terrain de jeu. Alors, Je ne vous dis pas qu'ils sont heureux d'être en permanence expulsés, d'être en permanence, mais il y a pour, c'est pour eux un terrain de jeu dans lequel une certaine créativité. Il y a, si vous voulez, un style de vie urbain qui est mis en avant par les artistes. À l'opposé du mouvement des voisins qui, lui, est ancré dans un lieu, dans l'esprit d'un lieu, dans la tradition d'un lieu. Alors, ça donne un cocktail qui est assez intéressant puisqu'il y a une complémentarité. Quand les habitants du quartier militent pour la défense du quartier, eux, ils le font au nom d'une tradition, d'une histoire, d'un récit. Grosso modo, le récit du quartier en question, si je vais très vite, hein, c'est quoi ? C'est une mémoire ouvrière et révolutionnaire, des petites entreprises très innovantes, et puis la présence significative des artistes dans la vie du quartier. C'est cette espèce de mélange, cette tradition-là qui fait le quartier de Poblenou, qui fait sa grande singularité. Bon. Le problème, c'est que c'est des populations vieillissantes. Ces associations de quartier, c'est des gens qui sont maintenant vieux, une partie s'est expulsée, etc. Donc ils ne peuvent pas se battre pour conserver l'intégrité du quartier. C'est impossible. C'est là où d'une certaine manière, l'association avec les artistes militants permet de désenclaver le mouvement. Parce que les artistes militants, ils vont proposer un projet alternatif de réhabilitation qui est fait avec les artistes, mais qui se trouve entre les deux. C'est-à-dire qui continue le récit de la communauté des voisins, mais, en le combinant avec une certaine capacité d'innovation. C'est quelque chose qui est recevable, qui est conforme au récit des habitants, qui est conforme à une tradition, mais en revanche, ça permet d'envisager une évolution en combinant la mémoire des habitants et des capacités d'innovation. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais enfin bon, ils vont proposer effectivement un certain nombre de choses, un projet qui va être très différent. Alors, où on a une singularité de cette insertion des artistes, c'est que finalement, le style de vie dont je vous ai parlé, cette dimension un petit peu ludique, etc., c'est une de leurs productions esthétiques. Et une autre de leurs productions esthétiques, c'est ces projets communautaires qui sont faits avec les artistes. Autrement dit, on a affaire à des artistes qui ne font plus de sculpture, plus de peinture, plus de performance, mais qui participent à l'élaboration d'un mouvement social. Et ils considèrent que c'est en partie leur contribution. Donc ça, c'est des choses qui semblent intéressantes. Notamment, le bilan un peu de tout ça. Que signifie cette collaboration entre les artistes et les mouvements d'artisans, d'habitants riverains ? C'est vrai que le rapport principal, c'est la mise en forme de l'expérience des habitants. Ça permet de la révéler, ça permet de la rendre discutable, ça permet qu'elle circule et ça permet qu'elle puisse être mise en débat. Grâce à cette mise en forme. Alors, Nathalie vous présentera ensuite les différentes modalités de mise en forme. Hein. Il y a des images, il y a des gestes, il y a des paroles, il y a du paysage, il y a du récit, il y a de l'ambiance. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler après. Ça, c'est ce qu'on a vu d'emblée quand on a analysé ces mouvements. Mais après, on est tombé sur la grille de Rancière. La grille de Rancière est intéressante parce qu'elle permet de nuancer tout ça. On se rend compte que les trois modèles que présente Rancière, le modèle de la représentation, c'est celui qui corrige les mœurs. Hein. On produit des formes artistiques qui produisent un effet déterminé sur un public. Hein. On dénonce l'hypocrisie en montrant un hypocrite, etc. Ça, vous connaissez. Bon, ce modèle-là, finalement, c'est un petit peu le modèle dont je vous ai parlé pour ce qui est de la mise en forme de l'expérience. Un petit peu seulement. C'est-à-dire, si je récapitule, hein, on avait quoi ? Le tracé du nouveau ruisseau qui représente le rapport à l'ancien exprimé par les habitants. La simulation 3D, ça représentait l'impact du projet ressenti par les habitants. Et puis, on se rend compte aussi que la peinture représentait la souffrance des habitants. Donc, on est bien dans ce premier modèle. Mais ce premier modèle n'est pas suffisant. Les artistes ne sont pas simplement des représentants. Alors, il y a deux autres modèles. Le modèle de l'expression, c'est un petit peu le modèle auquel ressemblent nos Barcelonais. Puisque finalement, nos Barcelonais, ils s'immergent totalement dans l'association des voisins. Et d'une certaine manière, c'est leur corps qui en témoigne. Puisqu'ils s'exposent, ils se font taper dessus par les flics. Donc, il y a vraiment... C'est une application du corps. Hein. Donc, on est dans quelque chose de très fort. On est bien dans le modèle de l'expression. Hein. L'art sans représentation, la fête civique, etc. Mais on a vu que ce modèle est plus compliqué. Et pour tous ces artistes, moi, je crois qu'il faut, insister sur... La troisième dimension, il a raison là-dessus, Rancière, il n'y a pas d'instrumentalisation justifiée de l'art. L'art n'est pas au service directement d'une fin sociale, il n'est pas prédictible, il n'est pas instrumentalisable à fond. Et très souvent, Il est imprévisible, il est déceptif, il est utopique. Et là, on entre dans cette troisième catégorie, l'autonomie des productions artistiques. Hein. Finalement, on retombe sur ce régime du sensible là, qui a été critiqué, mais qui, est quand même, qui semble quand même intéressant, parce que ça illustre le thème de la journée, c'est le dépaysement. On n'avait pas eu le dépaysement. En modifiant le cadre sensible, on produit un déplacement de l'imaginaire. Autrement dit, on rejoint la notion de l'altérité, c'est un gars du Cresson qu'on avait parlé, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est quelqu'un d'autre, la question de l'altération. L'apport des artistes à l'espace public, c'est qu'ils altèrent l'espace public. C'est-à-dire, ils font signe vers une altérité, il y a d'autres figures qui apparaissent dans la ville, ça peut être le SDF, il y a d'autres possibles, un autre imaginaire, donc ils altèrent le politique. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce groupe de travaux, c'est que ça participe à la constitution d'un nouveau sujet politique qui est l'habitant riverain. Voilà.